France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Montaigne, parce que c'était lui. C'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, nouvel épisode, Montaigne et l'art de l'autoportrait. J'ose non seulement parler de moi, mais parler seulement de moi. Je fourvoie quand j'écris d'autres choses et me dérobe à mon sujet. Montaigne écrit cela dans le troisième volume de ses essais, dont la dernière édition de son vivant date de 1588. Cependant, Montaigne fustige l'amour excessif de soi, c'est-à-dire la philotie, mot directement créé à partir des termes grecs pour dire amour et soi-même. C'est donc un moi sans phare, un moi parfois bien peu amène, bien peu aimable que Montaigne veut donner à voir. Certains philosophes, comme le penseur canadien contemporain Charles Taylor, dans son ouvrage de 1989 « Les sources du moi », ont fait de Montaigne une source majeure de la quête en Occident de l'idéal d'authenticité, quête prolongée plus tard par Rousseau et dont le tout premier représentant avant Montaigne était sans doute Augustin, dit Taylor, dans ses confessions écrites à la toute fin du IVe siècle. Nous verrons ce qu'en pensent nos invités de ce matin. En tout cas, l'outil informatique baptisé The Montaigne Project nous révèle que dans les essais de Montaigne, il y a 3363 occurrences des formes me ou même m apostrophe et 4805 occurrences du pronom je ou J apostrophe. En revanche, son nom même, Michel de Montaigne, n'est prononcé que trois fois et encore, pour les deux dernières fois, il faut prendre en compte les ajouts à la main que Montaigne a fait sur sa dernière édition, c'est ce qu'on appelle l'exemplaire de Bordeaux, où Montaigne a comme signé certaines pages. Vous verrez, là encore, grâce à nos invités, que le nom est aussi un enjeu important pour Montaigne. Bonjour Blandine Perronat.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeure de littérature française à l'Université de Lille, spécialiste de la période de la Renaissance. Outre la rhétorique qui a occupé vos travaux, ou encore des figures comme celle de la prosopopée, c'est-à-dire le fait de faire parler des choses, vous avez directement publié sur l'écriture de Montaigne, en particulier sur un chapitre des essais dont nous parlerons ce matin, de la physionomie, dans le volume 3. Et bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Professeur honoraire du Collège de France et professeur au département de littérature française de l'Université de Columbia à New York. Vous avez surtout travaillé sur Montaigne, Baudelaire et Proust. Je renvoie en particulier à votre ouvrage « Nous, Michel de Montaigne » paru au Seuil en 1980 et à votre livre de 2013, plus grand public, « Un été avec Montaigne », né de vos chroniques sur France Inter et publié aux éditions des Équateurs. Voici tout de suite, pour amorcer notre conversation sur Montaigne et l'art de l'autoportrait, un extrait d'une mise en scène de Claude Dupont de 1961. On y entend Henri Roland qui incarne Montaigne. C'était sur ce qu'on appelait à l'époque la chaîne parisienne. Et on entend donc un faux entretien avec Montaigne qui en profite pour décliner son identité.
Puisque c'est dans votre tour que vous avez bien voulu m'accueillir et m'accorder cet entretien, je voudrais vous demander, avant toute chose, Michel Ecken...
Avant toute chose, cher monsieur, je vous prie d'oublier le nom roturier dont vous venez de m'affubler.
Pardon ?
Pensez-vous que j'ai pris la peine de faire peindre jusque sur le mur de mon cabinet de travail mes armoiries et mon collier de Saint-Michel pour m'entendre nommer comme un bourgeois ?
Ah, monsieur, je suis navré.
D'azur semé de trèfles d'or à une patte de lion de même, armée de gueules mise en face. Telles sont les armoiries de Michel Seigneur de Montaigne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, qu'il fût Henri III ou Henri IV.
Dans ces conditions, Michel de Montaigne...
Très bien.
Je voulais vous demander, en premier lieu, si vous êtes effectivement bordelais, périgourdin ou gascon.
Disons, si vous voulez, que je suis un gentilhomme périgourdin, maire de Bordeaux, et qu'un sang gascon coule dans mes veines par l'entremise de mon cœur qui a toutes les faiblesses pour la Gascogne. Je suis d'une taille un peu au-dessous de la moyenne, et vous savez qu'Aristote assure que les petits hommes peuvent être jolis, mais ne sont jamais beaux. J'ai la santé forte et allègre. Du moins, je l'avais, car par la suite... Oh, mais... Oublions la suite. Restons-en à mes belles années. Mes conditions corporelles sont en somme très bien accordées à celles de mon âme. Je suis bon clair, mais je n'ai jamais su tailler ma plume, ni harnacher un cheval, ni parler au chien. Voilà.
Et voici à présent le très fameux avis au lecteur qui se trouve dans le premier volume des Essais de Montaigne.
C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que, m'ayant perdu ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que, par ce moyen, ils nourrissent, plus entière et plus vive, la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir à un sujet si frivole et si vain. Adieu donc. De Montaigne, ce 1er de mars 1580.
Et c'est Pierre Freinet qui lisait ici cet avis au lecteur de Montaigne dans le premier volume des Essais. Blandine Perronat, s'agit-il pour Montaigne de se mettre à nu, comme sont nus les cannibales dont nous parlions dans le premier épisode hier, les Amérindiens du Brésil, dont la nudité est saluée avec force par Montaigne?
Merci de cette question. Alain Le Gros a écrit un article où il expliquait qu'il y avait plusieurs gravures qui pouvaient illustrer cet avis au lecteur. Et en effet, il pensait à une gravure qui représente un toupinambal ananas. Et donc, une sorte d'horizon de cet avis au lecteur qui serait un naturel et même une nudité, une mise à nu. Et il me semble qu'effectivement, c'est une sorte d'horizon de l'écriture. Mais tout de suite, cet avis au lecteur pose la question cruciale, une des questions cruciales des Essais, qui est ce rapport sans cesse pensé, sans cesse interrogé, du rapport de nature à culture et d'une nature qui est toujours un horizon, mais qui ne peut pas se passer de la culture. Et ici, tout en annonçant un projet naturel, eh bien, Montaigne joue avec tous les codes rhétoriques de la préface, du prologue. Donc, il se met dans un espace d'art et il essaye de jouer dans l'espace d'art pour dépasser l'art et au moins suggérer par l'horizon que sa visée à lui, c'est de retrouver la nature. Mais il reste toujours la parure de l'art.
Donc le moi naturel. Diriez-vous, parce que je voudrais introduire ce problème très tôt, je me permets de poser tout de suite la question, diriez-vous que Montaigne met aussi en scène un certain échec de la peinture du moi?
Alors, un échec ou en tout cas une ironie, qui est toujours chez lui une forme de lucidité, c'est-à-dire que en annonçant un projet de nudité et puis un projet vain, il annonce un échec, mais joue avec cet échec et ça devient une coquetterie et c'est en même temps une façon de séduire. Donc c'est en fait aussi un magistral morceau d'art qui pense la question de comment se servir de l'art pour aller vers plus de justesse. Et à mon avis, ce n'est pas un échec parce que Montaigne fait ce qu'il peut faire avec l'art pour arriver à une forme de mise en scène de soi qui sera la plus proche de ce qu'il veut. Et c'est encore par l'art qu'il réussit à être ce qu'il veut être. Mais c'est quelque chose d'extrêmement maîtrisé et qui n'est pas le naturel, le naturel au sens de spontanéité. C'est tout sauf spontané, en fait.
Et vous, qu'en pensez-vous, Antoine Compagnon, de ce projet de mise à nu et peut-être de la peinture, de l'échec même de cette démarche de se peindre ?
Je crois que d'abord, il faut le dire, que le moi n'existe pas chez Montaigne. Vous avez dit peinture du moi, vous avez dit écriture de soi, mais Montaigne n'emploie jamais le moi sous la forme substantivée. Il emploie toujours le pronom. Le substantif n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle.
On pourrait dire l'autoportrait, en vérité.
Alors, est-ce qu'on peut dire l'autoportrait ? Là aussi, c'est une question. Alors, on dit souvent l'autoportrait parce que ce ne sont pas des mémoires et parce que ce n'est pas une autobiographie. Une autobiographie, c'est un récit de conversion, comme Saint-Augustin ou comme Sartre. Ça s'arrête au moment de la conversion. Et dans les essais de Montaigne, il y a très peu de récits. On va en voir justement quelques-uns aujourd'hui, mais ils sont très rares. Les moments, les épisodes narrés sont extrêmement rares dans les essais.
Que diriez-vous alors de ces 3363 occurrences de M apostrophe ou me, de ces 4805 occurrences de je ou j apostrophe ?
Justement, elles nous posent problème. Elles nous posent problème parce que vous avez évoqué le livre de Taylor, oui. Sources of the Self. Quand on traduit le self en français, on dit le moi ou le soi.
Oui.
Mais ça n'existe pas encore. Du temps de Montaigne. Alors quand Montaigne dit « c'est moi que je peins », il ne dit pas « c'est le moi que je peins
». Ce sont des actes psychiques.
C'est un pronom disjonctif, comme on dit, c'est tout ce que c'est. Alors évidemment, je me peins tout entier, tout nu, mais vous voyez, ne nous laissons pas trop prendre à ces formules. Alors l'autoportrait, il y avait un grand livre de Michel Beaujour qui s'appelait « Miroir d'encre », qui, dans les années 1980, qui est un très bon livre, et qui interprétait Montaigne, en effet, du côté de l'autoportrait, mais je dirais par opposition aux mémoires ou à l'autobiographie, qui sont moins convenable, mais enfin ce sont des essais. Donc,
ce moi,
faisons attention. Vous savez, c'est Pascal qui a transformé Montaigne en moi quand Montaigne dit tout ce que Pascal dit tout ce que j'écris, c'est dans moi que je le trouve et pas chez Montaigne, mais il dépend profondément de Montaigne. Mais entre-temps, il y a eu Descartes. Et donc faisons attention quand nous parlons d'autoportrait ou d'écriture de soi. C'est pas certain que ce soit tout à fait applicable à Montaigne. Alors, cela vient d'être dit, Montaigne, c'est d'abord un homme de l'art. Et c'est d'abord un lecteur. Et c'est à travers ses livres qu'il se construit et qu'il se reconnaît. Donc, les essais, ce que Montaigne nous peint, pour l'essentiel, ce sont ses lectures. C'est à travers ses lectures qu'il est à la recherche de quelque chose. Mais enfin, il n'y a pas encore d'identité au sens moderne dans les essais de Montaigne.
Ah, évidemment, je n'en attendais pas moins de vous. Antoine Compagnon, vous venez en plus de publier chez Gallimard un ouvrage qui s'appelle 1966, Année mirifique, où vous dites une nouvelle fois, mais sans doute encore autrement, à quel point les années 1960, et peut-être déjà un peu avant, en France, ont ruiné la figure du sujet souverain, du moi qui parfois va avec, dans un éclatement du sujet, la mort de l'auteur, disait Foucault, disait Barthes aussi. Donc, bien sûr, vous êtes très redevable à tout cela, et donc on peut d'ailleurs se dire que si quelqu'un qui aimait tant cela comme vous s'est intéressé à Montaigne, forcément, c'était pour dire que, contrairement à ce qu'on a parfois cru, il n'y a pas de moi chez Montaigne. J'aurais fait réagir Blandine Perronin à ce qui vient d'être dit. Iriez-vous aussi loin que Antoine Compagnon ?
Alors, effectivement, du point de vue de la langue, c'est absolument indéniable. Le moi n'existe pas, le pronom n'est pas substantivé. Néanmoins, Montaigne essaye de faire émerger quelque chose de solide, un peu de concret, qui serait un lieu où il se regarde. Et j'aime énormément le livre qui a été cité de Michel Beaujour, Miroir d'encre. Il y a la volonté de faire émerger quelque chose. Alors, sauf que il faut jamais prendre Montaigne complètement au mot, mais il y a à la fois cette idée assez fascinante où il dit que le livre l'a fait et que en fait le livre est tout de même, on arrive à avoir une forme de sortie de soi dans le livre, et donc il y a quelque chose comme un autre Montaigne qui existe dans ce livre. Donc d'une part, il fait émerger une forme de lui-même par le livre, et c'est ce qu'il va dire dans le chapitre du repentir, et donc là il y a la tentation de dire ben oui, Montaigne réussit à se lire véritablement dans son livre. Et puis, par ailleurs, il va avoir des affirmations pour dire que plus il se hante et plus sa difformité l'étonne, et il reste un monstre et miracle à lui-même, insaisissable. Mais il me semble qu'il y a ces deux tentatives dans l'œuvre, à la fois de faire émerger de fortes tendances, des linéaments, quelque chose comme une silhouette qui va exister dans le livre, et en fait il y a des réminiscences de ce qui était déjà dans le néoplatonisme de Ficin. C'est un motif qu'on retrouve chez Erasme. Il y a l'idée du simulacrum en latin, donc quand même cette idée que dans l'œuvre, comme chez les enfants, on voit la silhouette des parents, dit Ficin, et Erasme reprend cette image. Et il y a cette idée, ce même désir qu'on peut sentir par exemple dans De l'oisiveté, il y a le désir de faire émerger quelque chose par le livre, et quelque chose qui aurait malgré tout une unité. Mais par ailleurs, Montaigne affirme qu'effectivement l'expérience d'un côtoiement de soi amène constamment à réinterroger cette unité, mais que parfois les essais disent émerger dans le travail de l'écriture.
Vous avez parlé de lecture et d'écriture maintenant tous les deux, mais c'est surtout Landine Perronat qui vient d'introduire ce problème. La lecture est une expérience de l'intériorité très importante pour Montaigne. Je dis intériorité, pas du moi. Est-ce que l'écriture est aussi la clé? Je dis ça, vous êtes aussi spécialiste de Proust. Est-ce que quelque chose du travail d'exploration de soi, qui n'est sans doute pas la constitution d'une unité, mais une exploration de soi, est déjà anticipée par Montaigne? Je me permets de citer Montaigne dans le chapitre de la vanité du troisième volume des essais. « Mon entendement, dit-il, ne va pas toujours avant, il va à reculons aussi, c'est assez intéressant, elle est à reculons. Je suis envieilli de nombre d'ans, moi à cette heure, et moi tantôt, ajoute-t-il, sommes bien deux. »
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, mais je voudrais d'abord renvoyer, compléter la référence à Michel Beaujour par un très bon article de Terence Cave, grand spécialiste de la Renaissance, qui s'appelle « Fragments d'un moi futur ». Ce que nous trouvons chez Montaigne, ce sont les fragments d'un moi futur. Mmh. Ce moi qui émergera chez Descartes et chez Pascal, de manière tout à fait reconnaissable, avec la substantivation. Alors chez Montaigne, on n'a pas ça, et vous avez répété ce passage dont j'avais fait, à quel oui. J'avais accordé beaucoup d'importance à l'époque où j'avais écrit « Nous, Michel de Montaigne
oui. ».
Moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux. Donc cette idée d'un relativisme de Montaigne, d'un mobilisme de Montaigne qui est poussé jusqu'à l'idée qu'il n'y a pas d'identité, pas d'individualité. Nous sommes une pluralité d'instantanés. Et puis en même temps, comme dit Terence Cave, dans ces fragments d'un moi futur, il y a une certaine consistance, et c'est ce que Montaigne repère lorsqu'il dit justement « mon livre et moi qui touche l'un, touche l'autre ». Donc il y a cette sorte d'identité entre le livre et ce moi qui est en train d'émerger. Alors, Blandine a fait allusion à Erasme et au simulacrome. Il y a toute une tradition qui associe la perpétuation à la fois à l'éducation, scolé, osium, et à la procréation aux enfants. Donc, il y a des choses dans cette sorte qu'on trouve dans l'Antiquité. Faire des enfants et s'instruire, ce sont, ou c'est ce qu'on trouve chez Rabelais notamment, ce sont deux petites formes de l'immortalité qui sont permises à l'homme encore, malgré la chute. S'instruire et faire des enfants, c'est se perpétuer.
Et l'écriture?
Comment?
Et l'écriture doit à ces, métaphoriquement,
à cette
mais
tradition,
peut-être même plus au-delà, à cette
tradition. Tradition. Ouais. Et l'écriture de Montaigne, assurément. Les enfants et les livres, c'est une métaphore qui est très constante. Mais n'oublions pas que Montaigne est l'un des premiers. Montaigne est contemporain du développement de l'imprimerie. Il a tous les livres autour de lui, dans sa tour. Et Montaigne est, pour moi, le prototype du lecteur moderne. Ce que nous sommes devenus de plus en plus au cours des siècles. Peut-être que c'est la fin. Montaigne a ouvert une parenthèse qui peut-être se referme aujourd'hui. Pendant quelques siècles, notre identité s'est constituée à travers la lecture, à travers les livres.
Permettez-moi,
peut-être que c'est fini.
Oui.
Mais Montaigne, ne l'oublions pas.
Là, dites-le nous tout de suite. Vous pensez que c'est fini, là? Ça va pas bien du tout.
Ben, écoutez, la lecture ne va pas très bien en ce moment.
En effet. La librairie, les chiffres le montrent. Oui.
La librairie, nous arrivons à des générations de jeunes gens qui sont nés après les réseaux sociaux et pour qui l'horizon de la lecture, c'est 140 caractères. Donc ça devient difficile de lire Montaigne ou Proust.
Même si on peut lire des choses aussi sur Internet. Mais c'est vrai que les choses changent. Le rapport à la lecture.
L'attention. Non, mais ce qui est intéressant de penser, c'est que chez Montaigne émerge ce moi moderne dont le modèle, c'est le lecteur. Avec les livres autour de lui. Et nous, notre génération, c'est dans les livres que nous nous sommes formés, que nous avons formé notre moi. Que je veux bien substantiver quand je parle de moi.
Ça, ça m'étonne. Je pensais au contraire que vous refuseriez pour vous aussi.
Non.
Enfin bon.
Non. nous sommes formés dans les livres et notre self, comme dirait Charles Taylor, vient de la lecture de Montaigne et de Pascal et de Proust et de Stendhal.
Mais peut-être dans une unité contrariée, dirons-nous. Je présume que vous ne seriez pas hostile. Enfin, je vous propose qu'on avance sur Montaigne, ça vous ennuie.
Oui.
Alors, on va prendre un épisode narratif. Il y en a peu. Une histoire qui est arrivée à Montaigne. Je vous préviens tout de suite, je me permettrai de faire un parallèle avec certaines histoires racontées par Augustin, car ce mot a été prononcé, les confessions d'Augustin, et nous sommes passés un peu vite là-dessus. Mais c'est pas du tout peut-être le même genre d'histoire. Là, c'est Montaigne qui a un accident de cheval et qui fait l'expérience de la proximité de la mort. C'est peut-être une effraction, une dislocation du moi. Ça se trouve dans l'essai numéro 6 du volume 2 de l'Exercitation. Écoutons.
M'étant allé un jour promener à une lieue de chez moi, estimant être en toute sûreté et si voisin de ma retraite que je n'avais point besoin de meilleur équipage, j'avais pris un cheval bien aisé, mais non guère ferme. À mon retour, une occasion soudaine s'étant présentée de m'aider de ce cheval à un service qui n'était pas bien de son usage, un de mes gens, grand et fort, monté sur un puissant roussin qui avait une bouche désespérée, frais au demeurant et vigoureux, pour faire le hardi et devancer ses compagnons, vint à le pousser à toute bride droit dans ma route et fondre comme un colosse sur le petit homme et petit cheval et le foudroyer de sa roideur et de sa pesanteur, nous envoyant l'un et l'autre les pieds contre mon. Si bien que voilà le cheval abattu et couché tout étourdi. Moi, 10 ou 12 pas au-delà, mort, étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, mon épée que j'avais à la main à plus de 10 pas au-delà, ma ceinture en pièces, n'ayant ni mouvement ni sentiment, non plus qu'une souche. Ceux qui étaient avec moi, après avoir essayé par tous les moyens qu'ils purent de me faire revenir, me tenant pour mort, me prirent entre leurs bras et m'emportaient avec beaucoup de difficulté en ma maison. Par là, je commençais à reprendre un peu de vie, mais ce fut par un si long trait de temps que mes premiers sentiments étaient beaucoup plus approchants de la mort que de la vie. Ce conte d'un événement si léger est assez vain, n'était l'instruction que j'en ai tirée pour moi. Car à la vérité, pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. Or, comme dit Pline, chacun est à soi-même une très bonne discipline, pourvu qu'il ait la suffisance de s'épier de près. Ce n'est pas ici ma doctrine, c'est mon étude. Et ce n'est pas la leçon d'autrui, c'est la mienne. Et ne me doit-on savoir mauvais gré pourtant si je la communique ? Ce qui me sert peut aussi par accident servir à un autre.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Montaigne toute cette semaine. Aujourd'hui, l'art de l'autoportrait chez Montaigne avec Antoine Compagnon et Blandine Perrona. Blandine Perrona, cette anecdote, je le dis exprès ainsi, dans cet essai de Montaigne, un accident de cheval, fleurbond un peu la bonne histoire, quoi, sans gravité, celle qu'on aime à raconter. Et peut-être d'ailleurs, y a-t-il un peu de cette joie dans le choix du tapis sonore par notre réalisateur Nicolas Berger. Et puis, il ne faut pas s'en laisser compter. Peu à peu apparaît, quoi, un tragique, une sensation d'être au bord de la mort, un précipice, quelque chose qui n'est plus léger du tout.
Alors, en effet, on a l'art du récit, on l'entendra aussi, je pense, à l'occasion d'un autre chapitre. Donc, c'est une histoire, alors malgré tout importante, hein, puisque c'est la proximité avec la mort, mais presque avec des passages comiques, hein, sur cette chute avec un cheval lancé à toute vitesse sur le petit Montaigne, ce qu'on entendait aussi dans l'autoportrait. Donc, toujours un petit peu de dérision, un art du conteur qui est présent ici. Et puis, ensuite, une instruction. Alors, je ne verrais pas ce texte comme tragique, puisque dans ce rapport à la mort qui est présenté dans le chapitre de l'exercitation, c'est plutôt un rapport apaisé, puisque c'est une expérience très douce que cette proximité de la mort. Mais il me semble que par rapport à la vie au lecteur, ici, on a avancé. La vie au lecteur est fascinant parce qu'il annonce beaucoup de choses, des promesses qui vont être tenues, et je trouve que là, encore, c'est un produit de l'art. Montaigne se donne des caps par l'écriture et il les tient. Et en cela, il se construit. Mais la vie au lecteur, au fond, ne réfléchit pas encore à la finalité de ce fait de s'écrire. Et ici, de l'exercitation, qui annonce de ce point de vue-là le chapitre de l'expérience, pense la fonction de ce récit de soi. Puisqu'après, on va avoir de nombreuses lignes où Montaigne va dire « Mais est-ce que c'est pas un peu ridicule de se raconter comme ça ?» Ce qui peut aussi
paraître... Vous voyez, l'autodérision, elle revient.
Complètement anecdotique. Ouais. Et finalement, il dit, dans mon projet modeste que j'ai, ce projet n'est pas ridicule, j'assume, je parle de moi et rien que de moi, parce que dans cette expérience, j'approfondis une connaissance de moi qui va me permettre de mieux déterminer ce que je veux être et comment je veux agir par la suite. Et même cette instruction, et il le redit peut-être encore plus clairement dans de l'expérience, cette instruction peut me servir à moi pour voir en quoi je suis un contre-modèle ou un modèle, mais cette instruction peut éventuellement servir à d'autres. Et donc là, ce mot d'instruction me semble absolument essentiel. Et c'est vrai qu'à la fois, les essais sont la construction donc de quelque chose qui qui devient consubstantiel à Montaigne, une forme, une unité qu'il veut faire émaner mais qui n'est jamais acquise. Ça, c'est le premier point. Et donc, cette forme se fait dans le dialogue avec les livres et en même temps, ici, on a vraiment le mot de rôle, d'enregistrement. Montaigne enregistre des expériences de pensée, des expériences physiques et ces expériences dans le livre deviennent mémoire qui l'aide à affronter les événements à venir.
J'ai quand même l'impression que vous refusez un peu la gravité tragique en rappelant cette légèreté constante, dérision, autodérision. Enfin, en tout cas, on a entendu, votre réponse m'a donné peut-être à tort cette impression. Et quelle est la vôtre de réponse, Antoine Compagnon? Y a-t-il du tragique?
Alors, c'est une page que j'aime beaucoup, que j'enseigne toujours. J'adore ce portrait. Si j'étais peintre et que je représentais Montaigne, je représenterais ce petit homme et ce petit cheval avec l'immense roussin qui fonce sur lui. Alors, ne l'oublions pas, c'est une expérience de la mort. Et tous les essais portent sur la mort. Les essais sont une préparation à la mort, du début jusqu'à la fin. Et Montaigne nous dit au début de ce chapitre, on ne peut pas essayer la mort. Pensons au sens du mot « essai ». Mmh. « Essai », ça veut dire « essayer ». Il n'y a pas d'expérience de la mort. Comment apprivoiser la mort si on ne peut pas en faire l'expérience? Ça nous renvoie en effet au chapitre de l'expérience. Et Montaigne nous dit, eh bien, il m'est arrivé un jour où j'ai eu finalement la chance, la grâce, de pouvoir expérimenter la mort, essayer la mort et en revenir. Et d'ailleurs, dans ce passage, tout ce qu'il nous raconte, il nous dit qu'il n'y a pas assisté. C'est ce que ces gens lui ont raconté après. Puisque,
donc c'est l'évanouissement.
L'évanouissement, quand il raconte le cheval était, j'étais d'un côté et de l'autre, il n'a pas vu. Il nous dit un peu plus loin que ce sont ces gens qui lui ont raconté ce qui s'était passé, puisqu'il a perdu conscience. Donc vous voyez ce qu'il y a d'émergent chez Montaigne, cet intérêt pour ce genre d'état second, où on perd conscience.
Oui.
Prendre conscience de soi et de ce qu'est le soi, ça passe par des analyses de la perte de conscience. Et ça, c'est magnifique dans ce chapitre. Et ensuite, Montaigne nous parle également du sommeil, et rapproche le sommeil de la mort, puisque dans le sommeil, nous échappons à nous-mêmes. Et Montaigne évoque aussi l'autre moment où nous échappons à nous-mêmes, c'est la sexualité. C'est le désir sexuel. Tout ça est présent dans ce chapitre, ou alors dans le chapitre sur des vers de Virgile, où il parle de ce que les hommes ne peuvent pas contrôler chez eux, c'est le désir. Donc Montaigne s'intéresse à tous ces états seconds où on est entre, disons, la conscience et l'inconscience. Il parle aussi de ce qu'il appelle les bégaiements du sommeil dans ce chapitre. Ces états qui sont ceux du réveil et de l'endormissement, où nous ne sommes pas complètement nous-mêmes. Vous voyez qu'il y a là, chez Montaigne, quelque chose qui est...
Oui.
Quand on parle d'un moi émergent, c'est un moi émergent à travers ce type d'expérience.
De l'inconscience.
Du moindre conscient.
Du moindre conscient.
Et puis alors, il va parler longtemps de la manière dont il reviendra à lui-même dans la suite de ce chapitre. Et alors, ce qui est très intéressant de ce chapitre, c'est qu'il double pratiquement de longueur dans l'édition de 1588. Et c'est là qu'on a un très long développement sur ce que vous appelez l'autoportrait. Et je suis un peu plus réticent, vous avez entendu à l'égard de ce terme.
Oui, j'aime bien ça.
Mais disons que le chapitre est pratiquement doublé par une réflexion sur l'autoportrait. Donc c'est bien ce chapitre sur l'exercitation et l'expérience de la mort qui introduit chez Montaigne, dans les essais, un développement sur ce que sera son autoportrait.
Alors c'est peut-être là qu'on voit une très grande différence avec Augustin dans les Confessions à la fin du IVe siècle. Chez Augustin, vous parliez de la chute tout à l'heure, de la chute au sens chrétien du terme, chose qui est encore présente chez Montaigne, mais qui est alors éminemment présente chez Augustin. Et dans les Confessions, on a l'impression que c'est l'hyperconscience qui est importante, plus que les moments de perte de la conscience, comme chez Montaigne. Et évidemment, avec la conscience du mal, je pense au très fameux épisode des confessions d'Augustin sur le vol de poires, où il a volé des poires, chapitre 4 du livre 2, lorsqu'il avait 16 ans. Et il écrit alors « C'est du larcin même et du péché que je voulais jouir. » Il s'adresse à Dieu « Ô laideur de l'âme qui abandonnait votre soutien pour sa ruine et ne convoitait dans l'infâme que l'infamie elle-même. » Conscience du mauvais en soi, pas du tout d'inconscience, et puis culpabilité formidable d'Augustin. Est-ce que ça fait partie des choses qui font que la filiation souvent évoquée entre Montaigne et Augustin ne fonctionne pas très bien, d'après vous, Antoine Compagnon?
Oui, je crois qu'elle... Oui, on n'est pas du tout dans le même monde de réflexion. Moi, je dirais la plus grande notion chez Montaigne, parce que ça, c'est une limite à cette pluralité du moi et à cette inconsistance du moi. La limite pour Montaigne, c'est pas la culpabilité, c'est pas Dieu, c'est l'autre. N'oublions pas que le moi, l'émergence du moi, elle est aussi liée à l'amitié, toujours, dans l'Antiquité. S'il y a des bribes de moi dans l'Antiquité, c'est à travers l'amitié, c'est à travers l'autre. Et n'oublions pas la phrase à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Hein » Montaigne est là-bas ici.
C'est ça, la préaltérité. Et donc, la chute, en termes chrétiens, le péché, le mal, chez Montaigne, est transmué d'une part dans une chute de cheval, comment dire, qui est beaucoup plus complexe, qui n'a rien à voir avec la culpabilité, qui nous fait passer dans un autre monde, celui de la moindre conscience, de l'évanouissement. Et d'autre part, Dieu, c'est l'autre.
Je n'irai peut-être pas jusque-là, dire Dieu, c'est l'autre, mais il y a, à travers tous les essais, une limite à, disons, l'inconsistance du moi, c'est ce que Montaigne appelle, vous avez lu tout à l'heure, la vie au lecteur, et la vie au lecteur commence par les mots, c'est un livre de bonne foi. La valeur suprême pour Montaigne, c'est la bonne foi.
Mais c'est pas l'authenticité, la bonne foi.
C'est pas l'authenticité. Qu'est-ce que c'est, alors ? La bonne foi, c'est, en latin, c'est la fidesse, c'est la fiabilité. Je suis un homme fiable.
Donc l'honnêteté du désir de se peindre en sachant que ce ne sera peut-être pas tout à fait ça.
C'est l'idée, la fiabilité, que l'autre peut compter sur vous. C'est ça le sens de la foi.
Ouais.
L'autre peut, et c'est ce qu'il dit de Montaigne dans La vie au lecteur. Vous pouvez compter sur ce que je dis. Montaigne est un homme de bonne foi. Alors, le moi peut changer, il peut être inconséquent. Mais ce que je dis et ce que je fais m'engage vis-à-vis de l'autre. C'est ce qu'on trouve toujours chez Montaigne. Cette nécessité d'être fidèle à sa parole. Et c'est ça, bon, dans tous les chapitres, par exemple, contre Machiavel, contre l'hypocrisie. Alors, vous voyez, je peux dire le moi n'existe pas, mais en même temps, tout ce que je dis et tout ce que je fais m'engage vis-à-vis de l'autre.
Qu'en pensez-vous, Blandine Perrona?
Oui, alors, j'aurais voulu réagir sur deux choses. Juste, vous, pour revenir sur la question du chapitre de l'exercitation sur mais Montaigne nous invite à la contradiction parce qu'il n'est pas un précisément et donc mais je suis assez frappée quand même dans le chapitre de l'exercitation et pour revenir à la question du tragique dans ses développements où il réfléchit sur l'écriture de soi suite à cette expérience, il dit « Mon métier et mon art, c'est vivre ». Et je crois que même dans cette expérience extrême de la mort, ça n'est pas précisément comme il le disait dans le chapitre « Que philosophie, c'est apprendre à mourir », mais de plus en plus, il se recentre sur un art de vivre, avec cette expérience limite, mais cette expérience limite, au fond, lui a donné un rapport plus apaisé à la mort, qui va lui permettre de mieux vivre. Et les essais sont un guide. Et ça me permet de revenir à une autre façon de penser la question de la fidesse. Et Antoine Compagnon a un très bel article sur ce sujet. Et on revient toujours au texte cardinal de La vie au lecteur, où effectivement, il annonce cette bonne foi. Et cette bonne foi est en quelque sorte renouvelée par le chapitre de l'utile et de l'honnête, où effectivement, il réannonce la centralité de cette fidesse. Donc là, il me semble encore que c'est que la fiabilité dont parlait Antoine Compagnon, et je le rejoins complètement, est aussi performée en quelque sorte grâce au livre, puisque Montaigne le dit en plusieurs endroits, au fond, en s'écrivant, il parle de la publication de ses morts, il dit le profit inespéré de la publication de ses morts. Quand il écrit son livre, il donne une parole et il donne aussi une certaine image de lui-même. Et la fidèle, ça devient aussi être fidèle à l'image qu'il construit dans son livre. Et c'est pourquoi le livre, l'a fait. Il a une autre expression en disant « Cette publique déclaration m'oblige de me tenir en ma route ». Et c'est en cela que le texte de La vie au lecteur est fascinant et se déroule au fond dans toute l'écriture des essais. C'est qu'en s'écrivant, Montaigne donne une image de ses mœurs et ensuite ce livre, au fond, le guide pour vivre. Et en cela, on voit combien l'écriture est un art de vivre, finalement.
Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. Hein, c'est ce que dit Montaigne, et c'est ça, cette réciprocité. Mais c'est moins le miroir que cette configuration du livre et du moi en permanence.
Et le livre est un, c'est aussi une de ses formules, alors même que l'unité du moi, elle, n'existe pas. Alors à présent, dans cette émission sur Montaigne et l'autoportrait, le très mal nommé Antoine Compagnon, autoportrait, je voudrais que nous abordions cet essai du volume 3 de la physionomie. On pourrait penser que c'est une peinture, justement, qu'il fait. Et peut-être, au fond, une formule de Montaigne un peu plus tôt dans le volume 3, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage », est-elle en réalité tout à fait adaptée? Car ce qu'il va peindre, là encore, c'est une espèce d'expérience, un passage vers quelque chose. Vous nous en parlerez. Voici cet extrait de la physionomie. Montaigne raconte comment il a échappé de peu à la mort à travers plusieurs anecdotes déjà auparavant. Mais là, il relate la situation où il est attaqué et dépouillé par des brigands alors qu'il est hors de chez lui. Et semble-t-il, il doit sa survie à sa bonne mine. Écoutez.
Me voilà pris et rendu. Retiré dans l'épais d'une forêt voisine, démonté, dévalisé, mes coffres fouillés, ma boîte prise, chevaux et équipage départis à de nouveaux maîtres. Après 2 ou 3 heures que nous eûmes été là et qu'ils m'eurent fait monter sur un cheval qui n'avait garde de leur échapper, voici une soudaine et très inopinée mutation qui leur prit. Je vis revenir à moi le chef, avec paroles plus douces, se mettant en peine de rechercher en la troupe mes affaires éparpillées, et m'en faisant rendre selon qu'il s'en pouvait recouvrer, jusque à ma boîte. Le meilleur présent qu'ils me firent, ce fut enfin ma liberté. Le reste ne me touchait guère en ce temps-là. La vraie cause d'un changement si nouveau et de ce ravisement sans aucune impulsion apparente et d'un repentir si miraculeux en tel temps, en une entreprise préméditée et délibérée, certes je ne sais pas bien encore quelle elle est. Le plus apparent qui se démasqua et me fit connaître son nom me redit alors plusieurs fois que je devais cette délivrance à mon visage, à la liberté et fermeté de mes paroles, qui me rendait indigne d'une telle mésaventure, et me fit promettre de lui rendre l'appareil. Il est possible que la bonté divine se voulût servir de ce vain instrument pour ma conservation.
Blandine Perrona, vous avez commenté ce chapitre assez longuement dans vos travaux, les références sont sur notre site. Je vais vous obligez à être un peu plus brève, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est important, là?
Alors, juste peut-être signaler rapidement qu'il n'y a pas un récit dans De la physionomie, il y en a deux. Et deux situations où Montaigne se trouve dans une extrême vulnérabilité. Une première fois, justement, par confiance, il fait rentrer des hommes dans son château. Et puis finalement, il se rend compte qu'il a fait rentrer de potentiels ennemis au milieu de terres protestantes, au milieu des guerres civiles, toujours menacées. Mais sa confiance lui a fait rentrer trop d'hommes. Et il est au fond, en quelque sorte, assiégé dans son propre château. Ça, c'est le premier récit. Et puis, il y a celui que nous nous venons d'entendre, où Montaigne est attaqué sur les routes. Et bien, au fond, ici, mise à nu de nouveau. Montaigne est dépossédé de tout. On l'a éparpillé son équipage. On lui a tout pris. On lui a pris son argent. Et donc, on peut le lire aussi hein, dans la suite de l'exercitation. À nouveau, Montaigne essaye de nous donner une image de lui dans une expérience extrême. Alors, on a dit que Montaigne se construisait beaucoup par rapport aux autres et à la parole des autres. Et en fait, dans la physionomie, l'autre, qui est très présent en fait, dans l'ensemble des essais, c'est Socrate.
Ah, c'est surtout, Socrate.
Parce qu'au fond, ici, Montaigne, autrement que Socrate, dont il parle longuement dans ce chapitre, est tout près de la mort. Et c'est pour ça que Montaigne admire Socrate, notamment, je crois que c'est la raison pour laquelle il l'admire le plus, c'est qu'il dit que, alors que Socrate se sait condamné, eh bien Socrate reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'aurait pas peur, qu'il avait confiance dans les dieux, et Socrate, Socrate garde sa fidélité à lui-même. C'est de nouveau une image de cette fidélité dont on a parlé.
Mais là, c'est l'apparence physique. Alors, c'est important parce que Socrate était laid et ça intéresse beaucoup Montaigne de dire que Socrate était laid. Lui est joli, Montaigne.
Tout à fait.
Et ça le sauve. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là?
Alors là, c'est intéressant parce que, mais je pense qu'il faut prendre la part de l'ironie, c'est que Montaigne, au fond, nous dit, dans l'expérience face à la mort, moi j'avais cet avantage par rapport à Socrate. Il parle de sa laideur. Hein. Moi, j'avais, en fait, effectivement, une bonne physionomie, une bonne mine qui m'a sauvée. En même temps, dans le récit qui nous est fait, ce qui est noté, c'est que Montaigne, alors qu'il est face à des personnes qui veulent négocier une rançon plus importante, Montaigne a dit non. Moi, je vous ai proposé tant, je ne peux pas vous proposer plus. Et alors que sa vie est en danger, il maintient sa parole en disant la rançon sur laquelle nous sommes entendus, c'est celle-ci. Et il y a aussi encore cette fiabilité. Il a donné sa parole et il ne va pas changer. La rançon ne changera pas. Et donc, il y a ces deux visages. Mais ce qui transparaît aussi dans sa physionomie, finalement, c'est aussi une forme de bonté, parce que faire confiance à l'autre et faire confiance que sa parole va être écoutée, c'est aussi une forme de bienveillance envers l'autre. Mais Montaigne nous dit en même temps que cette explication n'est qu'une explication possible. C'est-à-dire, est-ce que la confiance en sa parole, en la parole de l'autre, dans le respect de sa parole, qui est une forme de bonté, parce que c'est croire qu'on peut fonctionner en ne se mentant pas et en étant à la hauteur des paroles qu'on a données, eh bien peut-être que c'est ça qui l'a sauvé.
Vous croyez qu'il n'y a rien d'autre que la bonté qui se voit sur son visage? C'est peut-être plus rugueux que cela, non, Antoine Compagnon? Il y a quelque chose comme une nature jolie et sympathique chez Montaigne, que Montaigne reconnaît, qui bizarrement lui sauve la vie, qui n'est pas du tout comme l'apparence de Socrate. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à chercher d'un peu difficile, peut-être?
Ce passage nous rappelle d'abord que Montaigne a vécu dans le danger.
Oui.
Toute sa vie adulte, ce sont des guerres de religion. Et on en a là, donc, deux exemples. Il n'y en a pas tellement dans les essais, mais voilà deux récits qui nous montrent un Montaigne soumis au danger. Et Montaigne est un homme qui se couche tous les soirs sans savoir s'il sera vivant le lendemain matin, pendant toute oui. cette période de sa vie. Et puis, il y a l'idée, justement, de la fidélité à la parole. Et ce qui le sauve, je dirais, c'est la parole qui engage l'autre, c'est un pari. C'est un pari sur l'autre. C'est un pari. Il faut bien dire que c'est un pari ce qu'il fait avec dans cette circonstance. Mais Montaigne dit en effet, si j'ai promis à des bandits de payer une rançon, une fois qu'ils m'ont rendu la liberté, je dois payer cette rançon.
Et ça se voit sur son visage qu'il va bien se comporter et les brigands le croient.
C'est-à-dire c'est aussi un calcul. On risque, ce que nous dit Montaigne, c'est qu'on risque de retomber sur les mêmes brigands ou leurs amis une autre fois.
En effet.
Et Montaigne nous dit, dans De l'utile et de l'honnête, que l'honnêteté est un meilleur calcul que l'hypocrisie. Cicéron, dans le De Officiis, nous dit « si des brigands vous ont libéré, eh bien vous ne payez pas la rançon parce que c'était des brigands ». Et Montaigne dit « c'est un mauvais calcul parce qu'on risque de tomber une autre fois sur les mêmes brigands ». Et ils sauront que ma réputation n'est pas très bonne. Je suis un mauvais payeur. Non, Montaigne, l'honnêteté de Montaigne, la fiabilité de Montaigne, c'est aussi une tactique. Ne l'oublions pas.
Mais il était aidé par la nature. Socrate ne l'a pas été. D'ailleurs, ça se voit dans l'histoire.
Ce paradoxe de Socrate, Montaigne dit, oui, il y a ce paradoxe. Socrate, c'est l'idole de Montaigne. Mais il y a ce paradoxe, Socrate est ailé. Mais n'oublions pas, il y a tout de même une limite à l'adoration de Montaigne pour Socrate.
Oui.
C'est son démon. Montaigne n'aime pas cette inspiration de Socrate, cet appel à l'inspiration et au démon.
Il n'a pas de petit démon intérieur, Montaigne
n'a pas de petit démon. Montaigne refuse ce petit démon. Il ne comprend pas pourquoi Socrate a besoin d'un petit démon. Montaigne, lui, a les livres et, je dirais, cette fidélité à la parole.
Dernier mot pour vous, Blandine Perona, sur ce que vous voulez.
Oui, alors je voudrais revenir sur ce chapitre. Montaigne n'est pas naïf, mais il fait l'engagement de suivre cette parole donnée. Et effectivement, là encore, on a des échos de l'utile et de l'honnête dans le fait que il ne bouge pas sur la question de la rançon, mais en même temps, à la fin, il nous laisse notre liberté de lecteur et lectrice en nous disant cet acte que j'ai fait, c'est-à-dire un acte d'ouverture envers des protestants, peut être considéré comme un acte de bonté. C'est-à-dire que je me suis ouvert à l'adversité et dans une période possible de tension. Ça peut être vu aussi comme une période de lâcheté. C'est la fin du chapitre et il nous dit voilà, si vous trouvez cette lecture trop naïve de mon choix de la bonté, de mon choix de la parole donnée, à vous d'imaginer que là il n'y avait pas de la bonté, mais il y avait de la lâcheté, il y avait une forme de couardise. Et donc le Montaigne que nous dessinerons, c'est celui que nous serons libres de choisir et de croire ou non en la question de sa bonne mine. Personnellement, je suis une lectrice qui croit en sa bonne foi et en sa bonne mine.
J'aime ce qui me concerne, I like things about me, chante Mavis Staples dans sa chanson 2013 où d'ailleurs elle se regarde dans le miroir. La chanson est assez subtile, Mavis Staples vit toujours, c'est une chanteuse de soul, gospel et blues, majeure, militante pour les droits civiques. C'est une belle chose, je trouve, qu'elle soit toujours notre contemporaine. Merci beaucoup Blandine Perona, Antoine Compagnon pour vos échanges sur l'autoportrait de Montaigne. Antoine Compagnon, je renvoie à votre livre qui sort chez Gallimard, 1966, année mirifique. Je vous propose maintenant à tous les deux d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, elle a pour thème la force des arguments. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi faut-il argumenter ? Le verbe argumenter, comme le mot argument d'ailleurs, est toujours ambivalent dans la langue française, comme d'ailleurs dans la langue anglaise, où encore une fois, to argue veut dire d'abord se disputer. Mais en français, argumenter, c'est aussi d'abord contester. Argumenter, c'est contester une décision, produire des arguments, par exemple, opposés à une décision de politique publique qui nous frappe soit individuellement, soit collectivement. Nous ne sommes pas d'accord, à ce moment-là, nous argumentons. Mais au fond, l'argumentation, ce n'est pas seulement l'expression et la justification d'un désaccord. C'est une propriété générale du raisonnement humain. Lequel raisonnement humain est un besoin absolument vital dans la vie humaine et dans la connaissance scientifique autant que dans la vie publique. Argumenter, c'est produire les étapes d'un raisonnement qui part d'une hypothèse et qui va vers une conclusion. C'est aussi le cœur de la démarche scientifique, qu'elle soit de démonstration ou de réfutation. Si je veux montrer que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, je dois évidemment produire des arguments, parce qu'il y a des arguments en sens inverse. Moi, je vois le soleil tourner autour de la Terre. Alors, comment vas-tu me démontrer que c'est l'inverse ? Le scientifique, Galilée, bien entendu, Copernic, ont démontré d'une manière irréfutable, par des arguments et des preuves qui contiennent à la fois d'un système logique et de fait d'expérience et d'expérimentation, ils ont prouvé que c'était la Terre qui tourne autour du soleil et non pas l'inverse. Et c'est ce que Kant a appelé la révolution copernicienne. Malgré tout, dans cette argumentation théorique, on parle plus de démonstration que d'argumentation. L'argumentation est en effet peut-être plutôt réservée à la dispute interhumaine dans la vie individuelle et collective en général, mais aussi et surtout sur la place publique, sur ce qu'on appelle les forums de l'argumentation publique, nos démocraties, nos parlements, mais aussi les cafés du commerce et la discussion publique ou politique en général. En effet, dans l'argumentation politique, on ne peut pas s'appuyer seulement sur des faits démontrés, sur la vérité objective. Elle intervient et il faut que les politiques publiques soient fondées sur des faits scientifiques, des faits non seulement d'ailleurs des sciences de la nature, de la vie ou de la santé, mais aussi des sciences sociales et de l'économie. Mais l'argumentation humaine, comme le disait Aristote quand il disait que l'homme est un animal politique, l'argumentation humaine dans une société n'est pas fondée seulement sur des faits, mais sur des valeurs, sur des principes. Argumenter, c'est être capable de dire pourquoi tel ou tel choix que l'on défend s'appuie à un principe d'ordre général et lui-même juste. Tu me dis que tu es démocrate ou antidémocrate. Tu me dis que tu veux la tyrannie ou que tu veux au contraire contester la tyrannie. Dis-moi pourquoi. La question « pourquoi ?» au nom de quel principe général est déjà la base au moins d'une argumentation rationnelle. Peut-être que les pires dictateurs, les monstres, y compris les défenseurs du nazisme, avaient des théories, mais en fait pas jusqu'au bout. Car en réalité, ils n'acceptaient pas la théorie des autres et l'argumentation qui aurait pu démontrer que la démocratie et la discussion, la reconnaissance des points de vue d'autrui et de l'universel des êtres humains produisait une société meilleure, plus juste, plus efficace. Efficace, y compris pour répondre aux fausses accusations que certains, au lieu d'argumenter, imposent sans aucune argumentation, sans aucun cadre commun d'argumentation. L'argumentation est donc en effet plutôt du côté de la vie morale, sociale et politique que de la vie théorique où elle s'articule à la démonstration, à des principes que tout le monde accepte normalement dans un cadre commun institué comme tel et avec des preuves empiriques. Mais l'argumentation morale et politique, cela n'est pas non plus n'importe quoi, nos sociétés reposent sur la nécessité, le cadre et les fondements de l'argumentation.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Nassim El-Kabli et Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité !